l'actualité des idées aujourd'hui, le retour de la religion avec le philosophe Rémy Brague. Il publie Sur la religion aux éditions Flammarion. Dans cet essai, il refait de la religion un sujet de conversation, évalue la place nouvelle qu'elle a prise dans nos esprits, entre peur et fascination, chez les croyants et les non-croyants, entre incompris et impensé. Rémy Brague est notre invité. Il sera avec nous à partir de 12h55 après le journal de Camille Magnard. Et pour commencer, un roman qui s'inspire d'un fait divers et qui paraît chez POL, celui de Christine Montalbetti sur les traces d'un papy braqueur. Elle est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, à la carte en podcast.
La grande table. Olivia Jesbert.
Dans le Calvados, ça semble à peine croyable, un apprenti braqueur de 75 ans a été tué hier lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre. Après avoir attaqué, arme à la main, le casino de Trouville, fuite avec 7500 euros de butin, course-poursuite, tir sur les gendarmes qui ont répliqué et tué le retraité à une quinzaine de kilomètres de Deauville-Trouville.
Un fait divers comme point de départ. Le 25 août 2011, un septuagénaire braque un casino. Ce casino se trouve à Trouville, le casino de l'hôtel Saint-James. Après la casse, il va fuir, forcer un premier barrage de police. Il est dans sa Seat grise sur la route qui le mène à Dives-sur-Mer. Il va être abattu par la police, comme Mérine, à qui vous faites référence dans ce nouveau roman. Christine Montalbetti, bonjour.
Bonjour.
Dans Trouville Casino, après qui courez-vous?
Après quoi peut-être? Après la mélancolie, après la surprise du geste qui est une sorte de sursaut par rapport à cette mélancolie, après la phrase, après la narration, après la construction d'un suspense et à la fois des retours sur ce que c'est que le temps dans la maison, ce que j'imagine que c'est aussi cette vie derrière soi, le sentiment de la vie derrière soi.
Pas de casier judiciaire, aucun antécédent pour ce monsieur, pour ce papy braqueur. Vous lui inventez une vie, un mobile, une raison de ne plus être surtout. Pourquoi est-ce qu'il est allé jusque-là, faire ce casse, au point de perdre sa vie? Vous devez essayer de justifier ça quelque part.
Oui, je ne sais pas pourquoi il l'a fait et l'idée c'est surtout pas d'apporter un principe de résolution, mais quand même de conserver son mystère à ce geste. Je crois aussi que c'est très difficile de donner une explication au geste, d'enfermer les gestes dans une seule explication. Donc la réponse lui appartient, mais je peux même supposer que lui-même ne la connaît pas et qu'il y a tout un faisceau de réponse. Et l'idée, c'est plutôt d'amener le lecteur à entrer dans une forme d'empathie avec le personnage et à laisser trembler tous les sens possibles, toutes les réponses possibles en fait à ce geste.
À travers cette reconstitution, vous l'évoquiez à la question que cherchiez-vous vraiment l'idée d'une fugue ou d'une digression littéraire aussi, Christine Montalbetti. Quelle fidélité cependant au réel qui est votre point de départ? Est-ce que vous avez enquêté sur la vie de cet homme? Est-ce que vous avez cherché réellement à comprendre qui il était? Pourquoi il avait fait ce geste?
Alors le roman précise toujours, si le roman est construit par petites séquences, si la séquence rapporte des faits réels. Donc en gros c'est la chronologie de cette folle journée, la chronologie du braquage, la chronologie de la course-poursuite que j'ai pu reconstituer en confrontant les différents articles, les différentes informations que j'avais. D'ailleurs, certaines de ces narrations sont contradictoires, donc ça aussi, j'en parle du fait qu'il y a plusieurs versions de certaines de ces séquences qui circulent. Et puis, donc le roman fait clairement le départ entre ces séquences qui rapportent des faits réels et puis les séquences imaginées qui sont le temps dans la maison, le temps de cet homme dans sa maison.
Sa relation avec sa compagne.
Oui.
Tout ça, c'est imaginé, alors.
Oui, oui. Et je le précise chaque fois que j'imagine que que ses journées se passent de cette manière, que j'imagine les sentiments qu'il traverse.
Le braquage est une mécanique de précision et vous, telle une horlogère suisse, Christine Montalbetti, vous avez minuté chaque séquence, découpé le temps et l'action avec minutie et à d'autres moments, au contraire, vous allez étirer le temps, notamment vers le passé, à d'autres, vous allez le dilater. Ce temps, chronos physique que vous mettez en scène dans ce roman, au temps kairos, métaphysique, réel et fiction, revient aussi sur ce qui a pu être le moment décisif pour cet homme, ce moment où il a décidé d'y aller, qu'on ne peut pas évoluer, qu'on ne peut évaluer, qu'on ne peut pas minuter d'une certaine manière. Pourquoi jouer comme ça avec le temps, avec ces deux temps complètement différents, le temps objectif et le temps subjectif de nos vies?
Oui, c'est très juste ce que vous dites. D'un côté, c'est l'écriture presque d'un synopsis, presque d'un scénario avec ses séquences minutées, et puis de l'autre, ses séquences plus dilatées. Je crois que d'abord ça introduit un rythme, le fait que le rythme ne soit pas que haletant ou que dilaté, qu'il y ait cette alternance comme ça entre les séquences rapides de l'action et les séquences plus mélancoliques du temps domestique, du rapport au paysage. Je pense que ça correspond aussi à... j'aime la lenteur dans les récits, j'aime la lenteur au cinéma parce que ça laisse une place au spectateur, mais j'aime aussi la lenteur dans l'écriture, et là je crois que c'est à la fois que c'est un roman beaucoup plus rapide que les précédents à cause de ce découpage comme ça de la chronologie de la journée, et en même temps qui s'autorise ces plages plus contemplatives qui permettent d'évoquer aussi des sentiments, des sensations, qui sont, voilà, sont des moments plus attentifs aussi à toutes les sensations contradictoires qui peuvent nous traverser dans un même instant.
Comme l'indique l'un de vos romans, le précédent, paru en 2016, La vie est faite de ces toutes petites choses. Ça sonne comme un projet littéraire à part entière que vous confirmez dans ce nouveau roman, Christine Montalbetti. Tu t'étonnes de la façon dont une chose en a entraîné une autre, sans rapport manifeste avec elle, et ainsi de suite. Que ce soit comme ça, avec la vie, des choix qui portaient sur des activités anecdotiques, généralement insignifiantes, dénuées du moindre enjeu apparent, et qui, regarde-moi ça, ont déclenché en cascade une série d'événements impossibles à anticiper. À quoi les choses tiennent parfois, écrivez-vous dans Trouville Casino, à quoi les choses tiennent parfois? Vous avez la réponse.
Non, je crois que je n'ai pas de réponse, et que le roman n'est pas fait pour apporter des réponses, mais pour faire trembler les questions plutôt.
Vous pensez que nos vies sont déterminées ou que le hasard fait tout?
Ah, c'est une question très très complexe, je ne suis pas sûre d'avoir tous les outils conceptuels pour vous répondre. Mais en tout cas, sur ces toutes petites choses, le titre du roman précédent à la fois était provocateur, puisqu'il s'agissait de la dernière mission de navette spatiale américaine, qui s'est passée d'ailleurs le même été que ce fait divers. C'était en juillet et puis le fait divers en août. Donc c'était un titre provocateur, puisqu'évidemment l'aventure spatiale, on a tendance à l'héroïser. Mais c'était aussi un titre sérieux, au sens où notre rapport au monde est d'abord matériel, et que tout ce qui le constitue, c'est aussi cette relation que nous entretenons avec les objets, avec la matérialité du monde, avec le fait que je me tienne devant vous avec la moquette sous mes doigts de la table qui est recouverte d'une moquette. Et voilà, et tout ça participe de l'expérience de l'instant, cette manière dont notre corps est en interaction avec le dehors, et aussi plus largement avec l'humidité de l'air, avec le climat, avec...
Cette moquette sur la table, ça vous fait penser au casino dans lequel vous avez pu
ça
peut-être...
Pourrait, oui, ça pourrait en plus aller un peu chiner comme celle du casino.
Messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux, messieurs.
Le 3.
Parmi le frein.
Les voisins formés, 10 000 à la chambre.
1000 au 7.
1000 francs joue au 7.
1000 au 11.
0.
10
francs.
20.
100
000 à noir.
100 000 joies noires.
Le 16.
16. Rien ne va plus.
Terminé.
31, 33, c'est fini, messieurs. 10 noirs paires manquent.
Carré à cheval et plein.
Poker, roulette russe, machine à sous, le casino, Christine Montalbetti, c'est un non-lieu pour vous ou au contraire c'est un lieu métaphore de nos vies?
Oui, ça serait peut-être plutôt un lieu métaphore de nos vies. En tout cas, c'est un lieu très romanesque. Et j'aime assez... Alors, maintenant, il y a beaucoup... Il y a des roulettes électroniques, il y a, Il y a toute une sorte de folklore comme ça qui a tendance à disparaître. Mais se promener autour des tables de jeu, voir la tension, tout ce qui se passe dans le fait de miser, dans le geste de miser, toutes les peurs, les frissons, oui, c'est vraiment un endroit de roman, et à la fois c'est aussi un endroit triste, parce que c'est aussi un endroit où sérieusement des gens misent régulièrement leur salaire ou leur retraite, et voilà, c'est un drôle de lieu très contrasté comme ça.
Un lieu très cinématographique aussi, hein. On l'a vu avec La Baie des Anges de Jacques Demy, au Casino Royal, celui avec Peter Sellers et Orson Welles, à celui de Scorsese, le Casino de Scorsese.
It's never been done before. What's the target? When was the last time you were in Vegas? You want to knock over a casino. Three casinos? Vegas, huh?
Vegas?
Vegas.
Fantastic.
The heist is impossible.
Casino security cannot be beaten. You're out of your minds.
Exactly.
You are up to something, Danny. What? You're pulling a job, aren't you? You're a thief and a liar.
I only lied about being a thief.
You're gonna need a crew as nuts as you are. Who do you got in mind?
Smash and grab job, huh?
Slightly more complicated than that.
Say we get down the elevator, we can't move. And past the guards with the guns, and into the vault we can't open. We're just supposed to walk out of there with $150 million in cash.
Yeah.
Oh.
Mais là, c'est le Ocean Eleven dont vous venez d'entendre un extrait, sorti bien plus tard. Est-ce qu'un de ces films vous a inspiré dans le décor, dans la dramaturgie, ou est-ce que là, on est dans un scénario du casino à l'américaine?
Je pense que s'il y a eu des influences cinématographiques comme ça, plus ou moins inconscientes, ça irait plutôt voir du côté de Melville, à cause de la génération aussi à laquelle appartient ce personnage. Donc ce serait plutôt peut-être Gabin et Delon allant faire un casse dans un casino du Sud.
Sauf que les casinos, c'est plus ce que c'était non plus. Et d'ailleurs, quand Scorsese disait que casino symbolisait la fin d'un monde, le vôtre, ce monde du casino en 2018 ou en 2011, si on prend la date de ce fait divers, est beaucoup plus aseptisé, beaucoup plus sécurisé, gagné aussi par la modernité. Votre description du casino est notamment de la nouvelle machine, la roulette anglaise électronique, en dit long. Vous regrettez les petits rites, les visages tendus des joueurs autour de la table, la présence du croupier dont l'allure cérémonieuse faisait une partie du sel de l'affaire. Il y a des métiers qui disparaissaient. Les croupiers, d'il n'y a pas si longtemps, doivent errer, les mains dans les poches, et s'arrêter pour fumer une cigarette sur un banc, devant un plan d'eau, un parterre de fleurs, une pelouse, en songeant qu'ils vont devoir se reconvertir. Elle est là, la mélancolie.
Oui, c'est un monde qui change. Et j'étais surprise d'ailleurs par la vitesse de ces transformations. Parce que l'écriture de ce roman s'est étendue sur un certain nombre d'années. Elle a été entrecoupée par l'écriture d'autres romans. Et donc, la première fois que je suis retournée au casino, ça devait être 2 ou 3 ans après le fait divers, où j'y suis allée justement dans l'idée d'aller voir le décor et où certains éléments déjà me paraissaient trop contemporains pour avoir été présents 3 ans avant. Et puis, donc j'y suis retournée plusieurs fois, toujours pour l'écriture du roman. Et chaque fois, ces transformations, c'était aussi comme un geste d'effacement des traces de l'histoire de cet homme.
Qui va avec aussi l'effacement d'une partie de ce qu'était la vie de la Normandie avant, parce que c'est un roman qui est très ancré dans ce territoire qui a aussi, lui aussi, beaucoup évolué. Non ?
Oui, et je suis très attachée à la ville de Trouville. En fait, c'est une ville dans laquelle j'aime aller écrire depuis que je suis jeune fille. Ça m'arrive quand je suis bloquée sur quelque chose dans l'écriture d'aller y passer 2 jours simplement pour aller y écrire. Il y a même une année, j'avais loué un appartement. C'était quand j'écrivais L'évaporation de l'encre pour aller écrire le plus souvent possible là-bas. C'est un paysage auquel je suis attachée et du coup qui me constitue aussi, enfin qui participe de mon histoire. Et c'est vrai qu'il y a un moment à la fin du roman où cet été, alors que le roman est terminé, que je suis seulement en train de le relire, je retourne au casino et là, il y a une transformation radicale que je vis comme un effacement cette fois des traces de ma propre histoire.
poétique et mélancolique s'ajoute dans cette enquête normande une dimension parfois comique. Devenir un personnage de fiction pour lutter contre l'ennui à la manière de Georges Perec dans Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Raconter ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages. Écoutez Georges Perec sur son désir d'écriture.
Je voudrais écrire toutes les sortes de livres possibles. Je ne voudrais jamais écrire deux fois le même livre. Je voulais écrire des livres courts, j'ai voulu écrire un livre très gros, je voudrais écrire un livre autobiographique, un roman policier, un roman de science-fiction, des pièces de théâtre.
Vouloir tout faire.
Dans le domaine de l'écriture.
Et ça n'est pas de la vanité, c'est simplement explorer tous les arts.
Explorer pas tous les arts, tous les...
Mais les arts d'écriture.
Tous les arts d'écriture, disons.
Quels sont, Georges Perec, les livres que vous avez lus et qui viennent en librairie en même temps que le vôtre? D'abord, vous lisez?
Je lis très peu.
Pourquoi? Pour ne pas être influencé?
Non, je lis peu parce que je passe mon temps à relire. Je passe mon temps à relire Jules Verne, Kafka, ou Roussel, ou Queneau. Et là, pendant ces trois dernières années, lorsque j'ai rédigé La vie mode d'emploi, j'ai énormément travaillé sur un certain nombre d'auteurs. Et j'ai lu très peu de nouveaux livres. C'était très très compliqué.
Vous n'avez été occupé que de vous-même.
Ben oui. Il y a dans ce livre, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que quelque chose que j'appelle la jubilation, qui est le plaisir de raconter des histoires. Et je pense que les lecteurs partagent ce plaisir, un peu comme un enfant à qui sa maman vient raconter une histoire avant qu'il s'endorme.
Écrire, est-ce que c'est une fugue jubilatoire pour vous aussi, Christine Montalbetti?
En tout cas, jubilatoire, c'est sûr. C'est-à-dire que, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer à tel ou tel moment dans l'écriture, parce qu'il y a aussi des moments où ça n'avance pas, ou des moments où on se heurte à un problème de structure, ou des moments où l'énergie est moins présente aussi pour écrire, c'est quand même essentiellement jubilatoire. Et à la fois, ce qui n'est pas le cas dans ce roman-là, mais dans les romans qui sont des romans strictement de fiction, le fait de pouvoir faire advenir des mondes simplement avec la phrase, ça c'est une chose inouïe, de pouvoir faire exister des êtres en plus, même si c'est d'une existence comme ça, fragile et fantasmatique. Et c'est aussi... j'ai le sentiment que c'est une chose très artisanale d'écrire. C'est-à-dire, j'écris, à part les notes que je prends sur des carnets, j'écris sur ordinateur. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est un travail que je fais avec les doigts, que c'est un travail manuel, c'est-à-dire le contact des touches sous les doigts. Et du coup, il y a aussi un sentiment de fabrication, en fait. Écrire, c'est fabriquer un objet, essayer de faire de la beauté. Et voilà, il y a une chose aussi très, très réjouissante dans ce geste-là de fabriquer.
Donc vous avez besoin de vous sentir bien pour écrire. C'est-à-dire que pour vous, l'écriture n'est pas thérapeutique. C'est pas dans les moments de douleur, de souffrance, de mal-être que vous avez envie d'écrire pour exprimer quelque chose. C'est plutôt un plaisir à communiquer.
Il y a des œuvres qui se construisent sur des deuils, mais moi, à l'inverse, je crois que c'est quelque chose qui me rend muette et... J'ai besoin d'écrire, oui, dans un certain état de bonheur. Alors le bonheur, c'est fragile, c'est pas du tout un état constant, mais oui, de sentir aussi un accord heureux avec le monde et de le célébrer dans le geste d'écrire.
Bonheur partagé, chanter aussi, dit-elle, me fait du bien. C'est la chanteuse Camille qui sera en concert à partir de demain jusqu'à jeudi. 3 dates à la salle Pleyel à Paris. France Culture, il est midi 20.
Je m'élance en silence et je danse si longue, heureusement qu'on me pense bien plus lente et plus longue qu'une transe à mille temps. Souple, je suis souple. Quand je flanche, je me planque et je mange une mangue houlument. Si le vin blanc me tente dans mon palais, je tangue gaiement. Souple, je suis souple. Sous l'air du temps, sous l'air du vent, sous l'eau à l'ombre, j'attends. Ma salive balance de petits jets d'encre contre dents. Je charrie, j'achalande l'air du large et du ventre éloquent. Souffle, je suis
Camille, avec ce nouvel album Oui, sorti en juin dernier, on la retrouve enfin sur scène après des mois et des mois et des mois d'absence. Heureux aussi pour ceux qui pourront aller la voir à la salle Playel. Ce sera donc mardi, mercredi et jeudi.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Avec la romancière Christine Montalbetti pour son nouveau roman Trouville Casino qui vient de paraître chez POL. La fugue est littéraire avec vous, Christine Montalbetti. Elle est réelle aussi en ce qu'elle explore thèmes récurrents dans vos romans, cette envie de fuite. Régulièrement, vous passez dans Trouville Casino, outre le quatrième mur de la fiction qui vous sépare de votre lecteur pour apparaître jusqu'à la fin où vous surgissez entièrement comme romancière et comme un rappel, tout ceci est aussi et surtout le fruit de mon imagination. Le lecteur, pour vous, il est présent dès l'écriture, vous pensez à lui dès que vous jetez les mots sur le papier.
Oui, absolument. Pour moi, écrire, c'est vraiment un geste adressé. Et j'ai besoin de me représenter le lecteur et de le prendre dans la phrase aussi, de m'adresser à lui dans d'une manière. Enfin, l'idée de sa présence pour moi est vraiment dynamique dans la phrase. C'est une manière de me faire avancer ma phrase. Elle est tendue vers lui et du coup, j'essaye de construire une relation avec lui à l'intérieur du livre, voilà, qui soit une relation explicite, formulée.
Comme on le fait aussi à la radio, à travers ce micro, quelque part. C'est compliqué à expliquer parce qu'on s'exprime à quelqu'un et à tout le monde à la fois. Ouais. Vous avez peut-être, vous, des visages quand vous écrivez, celui des gens qui vous sont proches, que vous aimez. Et il y a aussi, on imagine, le visage de l'éditeur, l'éditeur en premier lecteur, un premier roman d'ailleurs, sa fable achevée, Simon sort dans la bruine, qui avait été refusée, temporairement peut-être, par les éditions de Minuit, et qui a trouvé preneur chez POL qui l'éditera. On a perdu récemment, vous, auteur de la maison, et nous, peut-être aussi lecteurs de ce qu'il éditait, l'éditeur Paul Otchakowski-Laurence, votre éditeur, POL. À ce sujet, le jour de sa mort, vous avez écrit quelques très beaux mots pour lui. Est-ce que je peux vous demander de nous les lire ?
Oui. Écrire une ligne en pensant, en sachant qu'il ne la lira pas, c'est étrange et presque impossible. On écrit toujours pour d'autres. J'ai toujours écrit pour d'autres. Pour mon compagnon, premier lecteur, pour Paul. Quand je tape une phrase, qu'elle se forme sous mes doigts, j'anticipe leur réaction. Les phrases sont aussi des choses que j'offre. Ne plus pouvoir les lui offrir, c'est cela qui est incompréhensible. Sa finesse extrême, l'adjectif délicieux, une personne délicieuse, l'enfance de son sourire. Et il m'avait redonné ma voix. Moi qui, à cause d'un deuil violent, l'avais perdue pendant des années. Il me l'avait redonnée, il l'avait accueillie, et par cet accueil, il l'avait encouragée. Il m'avait sauvée. Merci, Paul.
Paul Otchakovsky, Laurence décédé en janvier cette année, à qui vous rendiez hommage, Christine Montalbetti, par ces mots. Il y a une phrase du roman Trouville Casino qui évoque ce qui était presque sa politique éditoriale, en tout cas sa manière de faire. Vous écrivez « Pourquoi réclamer un roman balisé, taillé au cordeau, polissé, encadré par des barrières de sécurité, quand c'est avant tout de rêverie dont il s'agit ?» Ça, c'était vraiment les textes qu'il aimait éditer, POL, comme on disait. Vous pensez qu'on est trop formaté, qu'il faut que la littérature nous amène sur d'autres routes, en permanence, ne pas se laisser rattraper par ce qui semble être convenable?
Oui, c'est aussi que chaque auteur invente son propre tempo, son propre rythme, sa manière de faire, et que donc, lire un texte, c'est aussi se laisser prendre par chaque nouvelle manière, et pas appliquer des cadres de lecture trop préétablie. Je crois qu'écrire, c'est aussi un exercice de la liberté. Enfin, en tout cas, je le vis comme ça. C'est un lieu où j'exerce ma liberté, où je la vis, où je l'expérimente. Et d'où aussi mon goût pour ce qu'on appelle les digressions, mais pour moi qui est absolument central, qui est ce mouvement de rêverie qui nous prend à tout moment, à tout instant, et dans toutes les circonstances, et qui participe de chaque expérience au même titre que ce qui est nommé comme l'événement central de l'expérience.
Ça, c'est une phrase qu'on retrouve aussi dans le roman. Une question que vous soulevez, la digression, est-ce que ce n'est pas l'espace même de la liberté?
Oui.
Ça l'est beaucoup pour un auteur, mais c'est parfois compliqué pour nous de comprendre ce qu'est exactement la digression dans le récit. Vous en avez fait presque un livre, un essai, parce que vous êtes aussi prof, en plus d'être romancière. Vous pourriez digresser sur l'art de la digression?
Là, ça voudrait dire, vous parlez tout à fait d'autre chose, donc oui, il y a un sujet possible. Mais disons que la digression, c'est vraiment un terme rhétorique. Et dans ma pratique, je ne l'expérimente pas du tout comme un interdit que j'ai envie de transgresser. Mais ce que j'aime dans ce qu'on appelle la digression, c'est cet espace de liberté qu'elle ouvre, mais aussi cette idée que tout ce qui nous distrait du moment présent, on participe du moment présent. C'est-à-dire que là, je suis en face de vous, je pense aux auditeurs, je pense aux gens de la régie que j'ai rencontrés tout à l'heure, je pense à Jean-Paul Hirsch qui est derrière la vitre, je pense à la moquette, je pense à la fenêtre derrière vous, et tout ça participe de ce moment au même titre que ce que nous sommes en train de nous dire, que le contenu de ce que nous disons, et c'est ça qui fait la richesse de chaque instant.
Merci beaucoup, merci Christine Montalbetti. Trouville Casino, votre nouveau roman, vient de paraître chez POL. Merci à vous.
Merci à vous.